Chapitre 3. La merveille. Imaginez, continua Jean le Brice, une forme humaine constituée par l'enchevêtrement d'une quantité de fils plus ou moins gros, une sorte de résille incandescente, brûlant d'un feu violet et reproduisant par ses entrelacs et ses ramifications aériennes l'apparence légère et anatomique d'un de nos semblables. On aurait dit un homme construit comme une racine d'arbre lumineuse, un homme branchu, dont le cerveau faisait dans ma nuit un bloc de lumière duveteuse, et dont la moelle épinière s'allongeait, luminescente, comme un tube de Gessler en activité. Le spectre bougea. Ces lignes étaient pour moi comme tracées au phosphore sur un tableau noir. Je remarquai entre elles, dont certaines étaient plus ténues que des cheveux, une sorte de nébulosité violâtre qui, remplissant les vides, achevait les contours de la structure et dessinait à l'estompe la masse d'un individu. « Mais qu'est-ce que je vois ? » m'écriai-je avec horreur. Alors, dans le bas de la face, les fils phosphorescents se mirent à se distendre et à se contracter. Ceux de la gorge s'activèrent également, tandis que la clarté du cerveau s'intensifiait à gauche du front. Et tous ces filaments de luire davantage d'un feu changeant et concentré, comme la braise quand on souffle dessus. Le spectre, penché sur moi, me parlait. « vous voyez, le Brice, c'est bien vrai !»« Oui, dis-je, en reconnaissant la voix du docteur Prosope, je vois un spectacle inimaginable à travers mes paupières et l'étoile du pansement. Vous êtes sûr ? Dites-moi ce que vous percevez. » Je le lui dis. Et j'eus la surprise supplémentaire de voir le bonhomme de fil exécuter quelques glissades en tournant sur lui-même. D'autres se seraient jetés à genoux pour remercier le Seigneur. Prosope, content du sort, dansait le tango. « Mais de grâce, expliquez-moi, implorai-je. » « Tout à l'heure, hein, attendez un instant, il faut que l'on sache. » Je vis le bizarre aspect de Prosope se rapetisser avec promptitude, pivoter, la porte claqua, changer l'apparence par l'effet de la perspective. J'entendais ses pas dégringolant l'escalier et je me rendis compte qu'il s'éloignait à travers une infinité de plans vaporeux, de cadres plus ou moins discernables, qui composait pour moi un monde embrouillé, ici translucide, là transparent, coupé de droites géométriques, cloisonné de parfois diaphanes et semé de halos innombrables. À cet instant, au début même de ma prodigieuse transformation, cette mêlée n'était pour moi qu'un chaos très pâle, à peine sensible. Et derrière ces velléités, colorées d'un mauve variable, la nuit d'encre, la terrible nuit des aveugles, subsistait. C'est alors qu'ayant regardé mon propre corps, je m'aperçus de moi-même qu'une espèce de monstre, pareil à celui qui venait de s'esquiver, quatre formes, quatre armatures, quatre hommes en ramifications lumineuses s'empressaient maintenant à mon chevet. L'une d'elles était bossue, une autre se courbait, ratatinée. Je distinguais, sur des ventres, la silhouette d'autres petites ombres, de montres et de chaînes presque imperceptibles, et qui me semblèrent pouvoir être des boutons, des pièces de monnaie. Prosope était reconnaissable à sa haute taille et à son vaste encéphale. On m'ôta le bandeau, et j'ouvris les paupières sans que rien fût changé à mes sensations. Vous pouvez croire que l'idée de la radiographie me poursuivait, mais pourtant, je me disais qu'avec des yeux radiographiques, j'aurais vu le squelette des gens et non leur système nerveux. Prosope restait seul avec moi, me donna l'explication que j'attendais. « Les Brice, me dit-il, Vous me demandiez tout à l'heure, avec un étonnement gâté par l'effroi, ce que vous voyez. Et pardonnez-moi si, pour l'exposer, il m'arrive de vous rappeler quelques principes déjà connus de vous. Mais je voudrais sur toute chose être clair. Vous savez, Libris, que l'œil est relié au cerveau par le nerf optique, lequel transmet au cerveau les impressions lumineuses que l'œil a reçues. Vous savez d'autre part que le nerf optique ne peut envoyer au cerveau que des impressions lumineuses et point d'autre. Pincez-le, ce n'est pas une douleur qui en résulte, mais la sensation d'une clarté. Notons déjà en passant cette sensation lumineuse d'un contact qui n'est à tout prendre qu'une vision du toucher. Toute excitation du nerf optique se traduit donc pour un individu en manifestation lumineuse, qu'il y ait un œil au bout de ce nerf ou qu'il n'y en ait pas. Soit un homme en possession de ses yeux. Chez lui, le nerf optique communique au cerveau les indications fournies par la rétine. Cet homme a des sensations d'image, de couleur, d'ombre et de clarté. Bref, il perçoit tout ce que l'œil enregistre par le secours de son admirable complexité. Supprimez l'œil. Excitez le nerf directement. Plus d'images, hélas, mais seulement des luminosités confuses, à peine expressives, qui ne révèlent presque rien du monde extérieur et n'avertissent le sujet que d'un vague incident. Mais si, à la place de l'œil, j'installe un autre organe et que je mette cet autre organe en communication avec le nerf optique, si par exemple je remplace votre œil par un appareil auditif ou ce qui revient au même, si je relie votre oreille au nerf optique au lieu de la laisser en rapport avec le nerf auditif, qu'arrivera-t-il? Ceci, votre oreille continuera à enregistrer des sons, mais ces sons, vous les percevrez sous une forme lumineuse, puisque c'est là le seul langage que le nerf optique sache parler et transmettre. Vous verrez les sons, vous ne les entendrez plus. Vous aurez du monde sonore, une perception visuelle. Puisque nous avons cinq sens, on peut dès lors imaginer une série de cinq personnages diversement conditionnés sous le rapport de la vue. L'un, normal, verrait tout ce qui est normalement visible. Des autres, tous les quatre opérés. Le premier verrait les sons, le deuxième verrait les odeurs, le troisième verrait les saveurs, et le quatrième, plus difficilement représentable, à cause que l'organe du toucher se diffuse en nous, verrait les contacts. Or, les Boris, quelques expériences nous ont convaincus que ces fantaisies physiologiques sont chirurgicalement réalisables, surtout en ce qui concerne l'ouïe, le goût, l'odorat et la vue, ce dernier sens étant pris comme base expérimentale. Artificiellement, tout est visible, pour peu que le nerf optique soit relié à l'organe voulu. Tout, parfum, musique, succulence. Mais vous me direz qu'une pareille démonstration n'a qu'un intérêt bien spéculatif, quasi facétieux, et qu'en somme il importe aussi peu d'écouter avec l'œil que de marcher sur les mains. Vous avez raison, les Boris, mais attendez cependant. Vous n'ignorez pas que les cinq sens de l'homme ne sauraient prétendre à lui donner la perception totale de la matière en ses états différents. Cinq sens, il en faudrait peut-être 100, peut-être 1000, pour prendre connaissance de tout ce qui existe. La nature s'enveloppe d'un grand nombre de voiles. Jusqu'ici, l'homme n'en a soulevé que 5, ce que soulevait déjà l'ancêtre des cavernes. Les autres voiles, que cachent-ils ? Il cache certaines qualités de la matière pour lesquelles nous n'avons pas d'organes percepteurs, dont la raison seule nous fait présumer l'existence et dont rien ne peut nous faire soupçonner le caractère parce que nos sens ne les perçoivent jamais, même indirectement par écho ou par reflet. Il cache aussi certaines autres qualités pour lesquelles nous ne possédons pas non plus le sens approprié, mais qui pourtant se révèlent à nous quelquefois exceptionnellement, par quelque effet visible, odorant ou bruyant, sorte de fugue, d'escapade, que font ces choses-là dans le domaine de la vue, de l'odorat, de l'ouïe. Certes, Libris, il est beau que l'homme soulève chaque jour davantage les cinq voiles qu'il a saisies de sa main frémissante. Il est beau que le téléphone augmente si formidablement l'acuité de son tympan. Il est beau que le microscope et le télescope lui donnent tour à tour des prunelles de lilliputien et de géant, et que ses regards percent les murailles au clair des rayons X. Il est beau surtout que l'esprit du savant, supplée par l'intuition et le calcul, à l'infériorité de ses sens et même à l'absence d'organes sensoriels. Mais, dites, celui-là qui doterait l'humanité d'un sixième sens, celui-là qui adapterait au nerf optique un nouvel organe sensible à des vibrations encore inaperçues, encore imperçues par aucun autre nerf, comment le qualifier ? Écoutez, parmi les éléments mystérieux qui sont à l'homme ce que la lumière est aux aveugles, mais qui, cependant, par-ci, par-là, d'une manière détournée, se plaisent furtivement à lui déceler leur existence, il en est un, Libris, qui n'est plus pour vous inconnaissable. Cet élément que nous distinguons rarement, grâce à d'exceptionnelles manifestations lumineuses, sonores, tactiles, voire olfactives et gustatives, cet élément que nos ingénieurs utilisent aujourd'hui sans savoir au juste ce qu'il est, ni comment il agit, cet élément redoutable, occulte, universel, vous, Libris, seul au monde, vous en recevez l'impression directe. J'ai remplacé vos yeux par des appareils qui le saisissent comme l'oreille saisit le son, comme l'œil saisit la lumière visible. Moi, je ne devine la présence de cet élément qu'au bruit du tonnerre et de l'étincelle, à la vue de la foudre, à l'odeur de l'ozone, à la secousse d'une bouteille blindée, au spectacle de machines qui tournent et d'ampoules qui brillent. Vous, partout où elle est, vous voyez l'électricité. J'ai remplacé vos yeux par des façons d'électroscope très perfectionnées. Ils perçoivent du monde l'aspect électrique. Ils n'en perçoivent pas d'autres. Et naturellement, votre nerf optique vous traduit cet aspect sous forme de luminosité. Remarquez-le, au lieu de mettre l'électroscope à la place de l'œil, on pourrait parfaitement le substituer, mettons, à l'oreille. On pourrait le relier au nerf auditif plutôt qu'au nerf optique. Et alors l'opéré entendrait les phénomènes électromagnétiques au lieu de les voir. Pour comprendre à quel point le nerf optique était indiqué entre tous autres, il suffit de changer un instant. Il suffit de se rappeler que la vue est notre sens principal et que l'électricité offre avec la lumière bien plus d'analogies qu'avec le son, l'odeur ou la saveur. C'est pourquoi nous avons demandé à nos amis du front de nous envoyer des blessés aveugles pour nos expériences. Vous n'en êtes pas moi le premier, Libris, le premier homme qui ait soulevé le sixième voile de la nature. Le docteur Prosope se tut, après avoir prononcé d'un ton orgueilleux cette phrase emphatique. Sa victoire le transportait. Je voyais son système nerveux se moirer de luminescence. Moi, je restais confondu. D'abord, il me déplaisait de jouer le rôle passif d'un sujet de laboratoire. J'en étais honteux. Cet homme m'avait rabaissé au rang des cobayes. S'il s'était servi d'un être humain au lieu d'un animal, c'est uniquement parce qu'il avait besoin que son patient lui fit part de ses impressions. Ensuite, je vous l'ai dit, après avoir accepté la cécité, j'avais espéré retrouver la vue, et ma déception me laissait triste et morne. Je n'ai rien d'un explorateur, moi, et voilà que je me trouvais tout à coup arraché à mes vieilles habitudes, jeté seul, seul de tous les hommes, au sein de régions physiologiques inexplorées. Un phénomène, moi, genre Libris, un être exhibé. Vous ne dites rien, reprit Prosope. Oh, j'aurais mieux aimé voir, lui dis-je avec humeur, revoir comme avant. Puisque vous êtes capable d'inventer des yeux extraordinaires, ce serait un jeu pour vous de fabriquer des yeux ordinaires, de reproduire la nature, de rendre aux aveugles la faculté qui leur manque si cruellement. Oh, c'est une conception étroite et égoïste, un point de vue mesquin. Pouvez-vous comparer la guérison d'un infirme, un raccommodage, à l'extension de la puissance humaine? Nous ne sommes pas les rebouteux, nous sommes les pionniers de la plus grande humanité. Au surplus, les Boris, il faut savoir que ces appareils électroscopes dont vous êtes munis ne sont pas autre chose au fond que des yeux. Mais oui, tout à l'heure je parlais d'analogie entre la lumière et l'électricité. L'expression est insuffisante. La lumière et l'électricité sont identiques. Ce que nous appelons lumière n'est qu'une électricité dont les oscillations sont assez rapides pour influencer la rétine. Ce que nous nommons électricité n'est qu'une lumière dont les oscillations sont trop lentes pour que notre œil puisse les capter. On est arrivé à produire des courants électriques de 50 milliards d'oscillations par seconde. Qu'on parvienne à rendre ces oscillations 10 000 fois plus fréquentes, les ondes lumineuses elles-mêmes seront reproduites. Vos électroscopes ne sont en fin de compte que des yeux ralentis. Et vous comprenez maintenant tout à fait pourquoi nous avons eu pour nos expériences le nerf optique plutôt que tout autre. Un jour, peut-être, nos successeurs parviendront-ils à créer l'œil complet, l'œil que les vibrations les plus lentes et les plus précipitées pourront impressionner, l'œil qui verra les rayons infrarouges, comme les rayons ultraviolets, la chaleur, comme l'électricité, l'œil enfin qui donnera du monde la vision intégrale. Et alors il n'y aura plus lieu de distinguer la lumière visible et la lumière invisible. Il n'y aura plus que la lumière. Quelle beauté! Quand je vous aurais dit que grâce à nous, le premier pas vient d'être fait dans cette voie éblouissante, quand j'aurais ajouté que la science actuelle tend à considérer l'électricité comme étant la matière même, le principe de tout, les Brice, ne serez-vous pas fier de votre mission? Bon, vous auriez dû me prévenir, bougonnai-je. Je suis un soldat prisonnier. Vous m'avez traité comme un esclave, d'ailleurs, je ne vois presque rien. Vous verrez de mieux en mieux, ayez de la patience. Décrivez-moi, cependant, je vais prendre des notes. C'est inutile, je ne vois rien, dis-je fermement. Comment? Mais qu'est-ce qui vous prend, les Brice? Je ne vois rien, répétai-je. Vous vous êtes trompé, mon cher. Vous avez abusé indignement de mon malheur et de ma situation. Je vous considère comme des canailles, vous et vos complices. On ne traite pas ainsi un homme libre, un citoyen français. Peine perdue. Non, vous ne saurez rien. Ah, ces messieurs font des expériences sur leurs semblables. Eh bien, sachez-le. Je ne parlerai pas plus que le pauvre chien que vous auriez ficelé sur une planche et truqué à coups de bistouri. Je ne vois rien, vous dis-je. Mais les Brice, vous êtes fou, mon ami, allons. Nous vous associons à nos humbles travaux et assez l'hypocrisie. Laissez-moi mes yeux électroscopes, ou enlevez-les-moi, mais je vous enjoins d'avoir à me diriger immédiatement sur un camp de prisonniers français. Tout ce qui se passe ici viole le droit des gens. Nenni, nenni, prononça le docteur avec un calme irritant. Vous ne nous quitterez pas de la sorte. Vous ne nous quitterez jamais. Plaît-il? Mais nous avons besoin de vous. J'espérais que vous seriez assez intelligent pour mettre l'amour de la science au-dessus de tout. J'espérais que la joie de n'être plus aveugle, au sens propre du terme, et aussi l'enivrement de spectacles nouveaux compenserait pour vous l'ennui d'une existence sédentaire. Je ne dirai jamais rien de ce que je ferai, clamai-je. Si, au bout de quelque temps, Vous pouvez me torturer. Ah, fille, Brice, pour qui me prenez-vous? On vous traitera toujours avec les égards qui sont dus à votre remarquable propriété. Mais enfin, vous aurez certainement d'autres sujets que moi dans le même cas. Peut-être bien, mais nous n'en aurons jamais assez. Voyons, les Brices, pas de nerfs, pas de nerfs. Apprenez que vous êtes mort pour tout le monde. Madame votre mère sait, ou saura bientôt, que son fils a donné sa vie pour son pays. Il y avait du désordre à l'ambulance. Un infirmier s'est trompé d'étiquette. Vous qui chérissez la tranquillité, vous serez très heureux avec nous. Je tremblais de colère. Sale boche, tu ne sauras rien. L'autre se mit à rire, ce qui donnait à sa nervure un aspect dansant et macabre. Mais je ne suis pas boche, s'écriait-il. Ah, voici qui est intéressant, notons-le. Ce qui était intéressant, c'est que les électroscopes ne m'empêchaient pas de pleurer. L'évasion de l'homme truqué. Pendant que Jean Le Bris me racontait sa prodigieuse aventure, la nuit s'était épaissie et, la tension électrique s'étant maintenue, les yeux du compteur faisaient dans les ténèbres fluidiques deux clartés froides et sans rayonnement. « Votre mère va s'inquiéter, lui dis-je. Partons, l'obscurité affaiblit-elle votre vision ?»« Oh, du tout. Le jour et la nuit ne sont plus pour moi qu'une nuance assez inexprimable. Vous venez ?» Ce fut lui qui me guida, car avec mes yeux faits pour la lumière visible, je n'y voyais goutte. « Alors, dis-je, vous m'avez joué la comédie, mon petit Jean, lorsque vous tâtonniez. » « Oh, oui et non. Dans certaines conditions atmosphériques, je suis loin d'être aussi perspicace que ce soir. Un temps sec est pour moi un temps sombre, et le brouillard favorise singulièrement ma perception. Mais, je le confesse, j'ai parfois dissimulé. Laissons cela, dit-il non sans confusion. Je reprends le fil de mon histoire, tout en marchant, voulez-vous? Si je voulais. J'en étais resté à cet accès de chagrin rageur. Pour refouler mes larmes, je tournais furieusement mes poings dans mes maudits yeux et je les y enfonçais sans aucune précaution, si bien que Prosope m'avertit de mon imprudence. À me frotter de la sorte, je risquais de compromettre mon œuvre. L'opération était trop récente. Il disait vrai, mes frictions inconsidérées avaient dérangé je ne sais quoi, déréglé quelques minutieuses concordances. Maintenant, au lieu d'un seul Prosope spectral, j'en apercevais deux qui se chevauchaient. Mes électroscopes s'étaient mis à loucher. Cet incident refroidit mon exaltation et je pris conscience du bonheur relatif dont j'étais le bénéficiaire, contraint et forcé. L'idée de perdre cette espèce de deuxième vue, cette faculté de remplacement, me fut pénible. Mais le sentiment de malignité me retint d'avertir Prosope de ce qui venait de se produire et de lui demander ses soins. J'espérais que le strabisme se dissiperait, ce qui arriva fort heureusement. Quelques heures plus tard, la conjugaison des deux électroscopes s'était rétablie d'elle-même. Prosope, de guerre lasse, m'ayant abandonné à ma mauvaise humeur, je pus à loisir contempler le nouveau visage que m'offrait le vieux monde. À ce moment, en comparaison avec ce qui se montre à moi aujourd'hui, je découvrais réellement peu de choses et mal. Car il faut que vous le sachiez, depuis leur insertion dans mes orbites, depuis leur incorporation à mon organisme, mes yeux scientifiques n'ont cessé d'acquérir plus de pénétration. Ainsi, ce soir-là, Le fond de la salle était encore obscur. Cela ressemblait un peu à une illumination nocturne pour une fête, quand les maisons dessinent des traits de feu sur la nuit et qu'on n'aperçoit de leur masse qu'une lueur. Et puis je n'avais pas encore acquis le sens de la perspective, la notion de profondeur. Les lignes me semblaient toutes à la même distance, situées dans un seul plan vertical, tracées, je le répète, comme sur un tableau noir. Et comme le nouvel aspect des choses en faisait pour moi les choses nouvelles, parfois méconnaissables, je ne discernais d'abord que leur grandeur ou leur petitesse apparente, sans pouvoir conclure à leur inégalité réelle ou à leur éloignement respectif. Mais si réduit que fut encore pour moi le monde électrique, il n'en constituait pas moins un spectacle lumineux obligatoire. Je n'avais pas le moyen de m'en river en abaissant sur lui mes paupières que traversaient les radiations électromagnétiques. J'étais condamné à voir sans cesse devant moi ces feux inexorables, ondés d'assombrissement et d'éclat qui rendaient la perception les plus fatigantes. Autrement dit, j'étais condamné à ne plus dormir. Et c'est par là que ce diable de prosope eut raison de mon entêtement. Il me vainquit par le sommeil. Après 3 jours d'insomnie, la fantasmagorie des lumières ayant peut-être triplé, Prosope me vendit, contre la promesse de parler, une paire de lunettes compactes. Elles étaient faites d'une superposition de divers isolants qui, chacun remplissant sa tâche, interceptaient finalement toutes les radiations. Je dormis d'abord, puis, loyal, je parlais. Plus de noir maintenant, un éclairage général, un éclairage dégradé avec des zones tour à tour ardentes ou crépusculaires, une luminosité universelle, éternellement ondulée ou frissonnante, dont la couleur passait du bleu le plus aigu au rouge le plus acide par l'intermédiaire de tous les violets imaginables. À la vérité, le violet régnait presque uniquement, mais le rouge dominait dans le ciel et le bleu sur la terre. Il y avait entre eux un perpétuel échange, un va-et-vient d'effluves, et dans l'espace, c'était une propagation continuelle de rides immenses qui se coupaient et s'entrecoupaient infatigablement, tandis que des halos gigantesques il faisait des taches sans limite, frémissantes de vibrations centrifuges. Le noyau de l'un d'eux m'apparaissait au-dessous de l'horizon, à travers l'épaisseur translucide du globe terrestre, comme un foyer de saphir en ignition, et mes électrodes avaient une tendance extraordinaire à se tourner vers lui. « C'est le pôle magnétique, » me dit Prosope. Et les autres halos, ce sont des champs électromagnétiques. Mais sous vos pieds, le Boris, qu'est-ce qu'il y a? Les étages de la maison, des plans à peine teintés, des lames de brouillard violet. Quelqu'un est couché dans la chambre au-dessous. Non, mais plus bas, la Terre, la planète. Un abîme où tremblent des brumes, où des points plus denses mettent des lumières plus vives, la surface surtout condense le fluide. Sans doute, et autour de nous, la forêt, une mousse pâle, couleur fleur de pêcher, presque insaisissable. Ah, la mousse s'allume, pétille, s'agite, s'affirme. C'est le vent qui s'élève, n'est-ce pas? Tout flamboie doucement. Des panaches phosphorescents se poursuivent le long des murailles. L'air lui-même s'emplit de traînées. Je vois le vent. Et quand je bouge, moi, tout ce qui bouge s'entoure d'une flamme éphémère et laisse un coursillage déchiqueté, une frange de lueur. En face de nous, je vois un pavillon, transparence lilas. Les angles, les arêtes sont beaucoup plus accentués que tout le reste. D'admirables aigrettes azurées s'échappent des pignons pointus et le paratonnerre lance une gerbe inépuisable d'étincelles bleutées. Tout ce bleu et tout ce rouge passent leur temps à se fondre en violet, et le violet s'emploie constamment à se dissocier en rouge et en bleu. C'est ce qui produit ces fluctuations sempiternelles. Et que faites-vous? Vos cheveux s'embrassent. J'y passe la main, tout simplement. Une autre fois, je vous déprierai tout ce que j'ai écrit à Prosope et toutes les observations qu'il a faites par mon intermédiaire. Je vous dirai les diverses transparences des corps proportionnels à leur conductibilité. Comment certains métaux sont pour moi cristallins, alors que le verre le plus mince est souvent presque opaque, si bien que parfois je distingue mieux les aiguilles de ma montre à travers tous les mécanismes qu'à travers le verre. Je vous dirai l'auréole électromagnétique dont nous sommes nimbés, comme si chacun de nous n'était dans son être tangible que le noyau d'un champ de radiation, en sorte qu'à tout moment nos êtres se confondent tous influences. Je vous dirai, voici que nous approchons de Bellevue, et je voudrais vous faire le récit de mon évasion. Il y a un mois, tenez, jour pour jour, j'étais accablé de tristesse. Ma réclusion ressemblait à la mort, et j'avais perdu tout espoir de reprendre ma place parmi les vivants. La maison où j'étais détenu se trouve au milieu d'une vaste solitude. Je savais depuis longtemps que la plupart de ses occupants n'en sortaient jamais. Figurez-vous être dans un château de cristal, d'un cristal plus ou moins coloré d'améthyste. C'est à peu près cela. Le moindre phénomène électrique impressionnait ma vue à travers les parois. Or, tout objet contient sa dose d'électricité, toute action engendre un courant. Cela me permit d'entrevoir périodiquement une automobile qui arrivait et repartait, assurant la liaison entre le château solitaire et une agglomération de points lumineux que j'estimais fort lointain, car j'avais acquis la notion de distance. L'auto pénétrait au cœur des bâtiments par le chemin d'un couloir bordé de hautes murailles qui, se continuant tout autour du domaine, lui faisait une enceinte infranchissable, doublée à l'extérieur de fossés remplis d'eau. C'est du moins ce que je parvins à inférer après bien des contemplations et des recherches du haut de ma cellule ou pendant les promenades hygiéniques que Prosope me faisait faire dans les couloirs de sa forteresse. Impossible d'échapper à la surveillance de mes gardiens, impossible de forcer les serrures de ma porte. Sauter par la fenêtre était se suicider. Je savais de ma prison tout ce que mes sens pouvaient m'en apprendre, et rien ne me faisait espérer le salut. Mon serviteur restait muet, les autres m'étaient étrangers. Une nuit, alors que l'immobilité de chacun facilitait la besogne, j'avais dénombré les hôtes du lieu. Nous étions 30, que je crois pouvoir décompter ainsi. 12 malades ou patients, 8 médecins ou ingénieurs et 10 domestiques, infirmiers et ouvriers électriciens. Le silence n'était troublé que par le bourdonnement sourd des dynamos. Logées au sous-sol, elles produisaient des fulgurances qui m'éblouissaient comme des soleils d'artifice. Elles envoyaient le fluide se comprimer dans des accumulateurs resplendissants. Elles le lançaient au loin dans le rayonnement arachnéen des circuits, et le soir, à l'heure des lampes, les fils conducteurs bâtissaient autour de moi l'édifice paradoxal de leurs fines incandescences. Pardonnez-moi, Jean, si je vous interromps, mais dites, une lampe électrique allumée vous apparaît-elle à vous plus lumineuse ou moins lumineuse qu'un fil où passe un courant invisible à nos yeux? Rappelez-vous ce que je vous ai dit du jour et de la nuit. Ce ne sont que nuances. Je poursuis. Un matin du mois dernier, le silence ordinaire fut troublé par la rumeur insolite d'une altercation, et je distinguais dans la chambre voisine de la mienne deux formes humaines face à face. La grande, Prosope, la petite, au cervelet inégalement développé, mon serviteur attitré. Les deux hommes s'invectivaient. Il fallait que leur voison fût un étouffoir excellent, car malgré le peu d'espace qui nous séparait, je ne pus saisir que de confuses apostrophes. À leurs gestes, à leur attitude, au flamboiement qui parcourait leurs nerfs, je connus toutefois la violence de la querelle. Et le cœur du petit homme battait avec une précipitation caractéristique. Prosope, beaucoup plus calme, cependant, le frappa d'un coup de poing au visage et l'abattit par terre. Je vis le menu spectre se relever et sortir de la chambre, tête basse, mais en chatoyant de telle sorte qu'il semblait hérissé de lumière. C'était l'heure du lynche. Bientôt le serviteur ouvrit les serrures de ma porte et disposa sur la table, avec son habituelle méticulosité, les éléments de mon repas. Bien souvent, mais en vain, je lui avais adressé la parole. Cette fois, il me répondit, et que je sois damné si jamais quelqu'un baragouina le français d'une manière plus chinoise. Je n'essaierai pas de l'imiter. Il était furibond. Sachant trouver en moi un auditeur complaisant et discret, il épanchait sa rancune en accablant Prosope des pires insultes. Le motif de leur dissentiment était futile, mais je jugeais l'occasion propice. Sans embâge, je lui proposais de fuir avec moi. Il m'opposa seulement que lui aussi était prisonnier de Prosope. « Mais n'as-tu pas les clés de la maison ?»« Oh, qu'est-ce que les clés ? Rien ! Pour sortir d'ici, je traduis son invraisemblable galimatia, il n'y a de praticable que le grand couloir entre les murailles. Franchir la grille qui le ferme, qu'est-ce ? Rien ! Mais les pavés du couloir ne sont pas tous des pavés. Certains sont des plots électriques, dissimulés parmi les carreaux du dallage. Qui les toucherait du pied tomberait foudroyé. » Ainsi s'expliquait une singularité qui m'intriguait fort. Je regardais là-bas avec un sourire le dallage du couloir, la marqueterie sournoise où les plots cachés à tous les yeux encastraient pour les miens des luminescences éparses aussi évitables que des plaques d'or. « Il n'y a qu'une grille au bout du couloir, » remarquai-je. « Oui, à l'entrée du pont, un enfant passerait par-dessus, mais le couloir... » On interrompt le courant lorsque l'automobile entre ou sort, mais ces jours-là, le docteur fait bonne garde. « Nous partirons cette nuit, » décidai-je. « Et les plots ? » ?»« J'en fais mon affaire. » « Viens me chercher quand tout le monde dormira, je te conduirai jusqu'à la grille, ensuite... » Mais le supposé chinois comblé de stupeur et de vénération, m'embrassait les mains. « Où sommes-nous ici ?» lui demandai-je en me dégageant. « Seigneur, me répondit-il, ne m'interroge pas. Où nous sommes, cela j'ai juré de ne pas le dire. Quant à m'évader, c'est autre chose. Je suis à tes ordres. Je te mènerai à la ville qui est par là. J'ai de l'argent. Si tu veux, je t'accompagnerai jusqu'au bord de ton pays. Fais-moi traverser le couloir, et moi je fais serment de te remettre aux mains de tes compatriotes. Là, je te quitterai. N'exige rien de plus, j'ai juré. » Nul épisode n'accidenta notre fuite nocturne. Le petit Asiatique avait une incomparable dextérité pour manipuler sans bruit les serrures. Le château, feutré comme un cabinet de dentiste, jouissait d'un étrange pouvoir assourdissant. Prosope, sûr de ses domestiques, dormait profondément. Je le voyais dans sa chambre. Pas de chien de garde, pas de veilleur. Enfin, il tombait une petite pluie que j'étais fort éloigné de maudire, les choses m'apparaissant avec beaucoup plus d'honnêteté lorsqu'elles sont humides. Le couloir parcouru sans encombre, la grille escaladée, nous marchâmes durant 5 heures vers l'agglomération de points lumineux que j'avais déjà repéré. C'était la ville. Mon compagnon me dit « Si nous pouvons prendre un train au lever du soleil, ce sera bon. » Et il ajouta dans un rire exotique « Les docteurs vont dormir très longtemps derrière nous, au moins jusqu'à demain soir. » J'avais aussi les clés de la pharmacie. « C'est le ciel qui m'a envoyé ce petit démon, » pensais-je. Il n'a voulu me dire ni son nom ni sa batterie, et je n'appris rien de lui sur le docteur mystérieux. Il était aussi secret que des brouillards. Nous nous hâtions. La nuit s'écoulait. Je suivais des yeux, à travers la masse diaphane de notre sphère, la progression du soleil. Il était pour moi, derrière ce brouillard bleu et parmi les astres, comme un disque zinzolin, fouillé d'une formidable irradiation. Quand il dépassa l'horizon, nous étions empilés dans un étroit compartiment de chemin de fer, avec force voyageurs dont le langage inintelligible ne m'apprenait pas la nationalité. À quoi bon vous énumérer les fatigues et les péripéties de cette traversée européenne? Vers le soir, à l'heure où s'éveillait sans doute dans son château clinique celui que j'appelle Prosope, nous entrâmes dans les pays de langue allemande. Questionner les gens, moi qui ne savais que quelques mots tudesques, c'eût été me faire remarquer et chagriner mon sauveur, qui m'avait demandé de ne rien dire et de ne pas chercher à savoir. Je me bornais donc, comme je l'avais fait jusque-là, à retenir des noms, à noter les configurations de montagnes ou des structures de monuments pour les rechercher par la suite. Mais, basta, pourquoi faire? Au matin, le mot Regensburg frappa mon oreille. Nous nous trouvions alors dans un express qui longeait un fleuve vaste comme un détroit. J'entendis encore Nuremberg, Karlsruhe, au pont duquel, malgré tous mes efforts, l'Asiatique s'esquiva. Je passai le Rhin à la faveur d'un convoi de camions chargé de matériel livré aux Alliés. Ce furent alors toutes sortes de visites médicales et d'interrogatoires militaires dont je sortis en mêlant beaucoup de mensonges à peu de vérité. Vous savez le reste. Officiellement, mon aventure est classée. Je veux croire qu'elle est réellement terminée, mais il me semble prudent d'avoir toujours un revolver sur moi. Et je vous avoue, mon cher Bar, que tout à l'heure, votre présence subreptice derrière le buisson m'a donné la venette. Jean se tut et s'arrêta. Nous étions arrivés. Au fond du jardinet, qu'elle éclairait de ses fenêtres ouvertes, la maison Lebris s'élevait dans la nuit. « Il est très tard, dis-je. »« Oui, répondit Jean, qui me montra du bout de sa canne dans le gazon un point puis un autre. « Le soleil est là, tenez, et la croix du sud, là. Je suis bien le premier qui l'ait vu, sans quitter l'hémisphère boréal. » Il mit alors, les ayant tirés de sa poche, les fameuses lunettes du docteur Prosope, qui, épousant les parages de ses yeux, comme des lunettes d'automobiliste, éclipsèrent complètement toute phosphorescence. On pouvait les prendre, ces lunettes opaques, pour des besicles de verre fumé, et rien n'empêchait de croire que Jean devait les porter de temps en temps pour suivre les prescriptions d'un oculiste. « À présent, il faut me guider, fit-il. Je suis aveugle. » Je dirigeai ses pas. Nous montâmes l'escalier. Mais quand il fut chez lui, je restai quelque temps, une main sur la rampe, cherchant avec une fièvre enfantine quel prétexte inventer qui me permit de grimper au deuxième étage et de revoir Mademoiselle Grive, ne fût-ce qu'un instant. Mon cœur battait si fort que je l'entendais. Un bruit de voix là-haut me rendit heureux comme un collégien. Tout à coup, je songeais que l'aveugle extraordinaire me regardait peut-être à travers les murs, et je me retirais, méditant au prodige qu'il m'avait révélé.